Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, bienvenue, merci d'être au rendez-vous. C'est un nouveau voyage dans le temps et dans l'espace que nous vous proposons aujourd'hui. Nous allons revenir en effet sur 7 jours d'actualité, vous le savez, en nous focalisant cette semaine sur la Chine à l'occasion du 19e congrès du Parti communiste chinois avec notre invité François Bougon. Après le flash, rendez-vous avec l'actualité africaine et vos messages, bien sûr. Une semaine d'actualité à écouter aussi sur notre site rfi.fr. Bonjour François Bougon.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro pour nous éclairer et nous dire ce qu'il y a dans la tête de Xi Jinping, le président et le patron du Parti communiste chinois, avec un livre qui est très très intéressant dans une belle collection qui s'intitule Dans la tête. Il y a eu Dans la tête de Vladimir Poutine, on en avait parlé d'ailleurs avec son auteur Michel Etchaninov dans cette émission. Vous vous intéressez donc à ce qu'il y a dans la tête, dans l'esprit, dans la réflexion de Xi Jinping dans ce livre publié chez Solin Actes Sud. Alors vous êtes chef adjoint du service international du quotidien Le Monde et ancien correspondant de l'AFP à Pékin. Vous y étiez entre 2005 et 2010.
Oui, exactement. Ouais. Oui. Juste avant les JO et juste après.
Donc vous avez une expérience de la Chine qui vous intéresse depuis longtemps, je le sais. Alors vous écrivez dans ce livre, et ça met tout de suite les points sur les i, certains attendaient Gorbatchev, c'est un Poutine chinois qui a émergé.
En effet.
En 2012.
En effet, ouais, beaucoup d'observateurs pensaient que Xi Jinping allait mener une réforme politique, d'ouverture notamment, libéralisation. Et c'est le contraire qu'on a eu. Alors pourquoi on a pensé ça? Je pense qu'il y a deux éléments. Il y a d'une part le fait qu'il était fils de Xi Chong-sun, qui est un de ceux qui a participé à la politique de réforme et d'ouverture sous l'égide de Deng Xiaoping. Il était notamment dans le sud à Canton, mm-hmm, dans la province du Guangzhou, et il a présidé à l'ouverture des zones économiques spéciales. Voilà. Et puis l'autre élément, c'est qu'il a aussi un style plus ouvert, il a un certain charisme, et donc il détonnait par rapport à Hu Jintao, son prédécesseur, et notamment par sa manière de parler beaucoup plus libre.
On va parler de son itinéraire, mais on peut déjà en dire un mot. C'est un itinéraire assez atypique d'une nouvelle génération, en fait.
C'est la génération des années 50, ceux qui sont nés dans les années 50. Il est né en 53.
Vous dites qu'il est allé travailler à la campagne.
À la campagne. Voilà. Alors, c'est connu comme la génération de ce qu'on appelle les jeunes instruits, les Chuting. Et donc, c'est ces jeunes qui ont été envoyés à la campagne par Mao à partir de 68. Mao avait envie de se débarrasser des jeunes un peu turbulents qui faisaient la révolution. Il a décidé d'appeler l'armée, et puis ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé tous ces jeunes à la campagne.
Et une singularité que vous soulignez d'ailleurs dans votre livre, François Bougon, c'est qu'il connaît la Chine pauvre.
Oui.
Ce qui n'était pas le cas forcément de ses prédécesseurs.
C'était pas le cas de ses prédécesseurs, en effet. Donc il fait partie de cette génération de jeunes instruits. Ils ont découvert l'arriération de la Chine rurale dans les années 60.
François Bougon, partons pour la Syrie avant de nous rendre en Chine dans un instant. Avec bien sûr la libération de Raqqa aux mains des islamistes de l'organisation de l'État islamique. Rappelons que c'est dans cette ville occupée par Daesh donc que les attentats à Paris ont été décidés. Correspondance régionale mardi de Paul Khalife à Beyrouth.
Près de 5 mois de combats, de bombardements et de raids aériens ont transformé en tas de ruines cette ville prospère de 220 000 habitants avant la guerre en 2011. Raqqa est détruite à 80% selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les infrastructures ont été démolies, il n'y a plus ni eau ni électricité. La ville est inhabitable en l'état actuel et la réhabilitation des services de base nécessite des mois de travaux et d'importants moyens financiers. La dernière bataille a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi dans l'hôpital national le plus grand de la ville, où 22 djihadistes étrangers ont été tués, selon des sources kurdes. Raqqa, dont l'écrasante majorité des habitants est arabe, a été libérée par des milices kurdes. Les Arabes accepteront difficilement d'être administrés par des Kurdes, et ces derniers, qui ont perdu près de 500 combattants pour la libération, voudront recevoir des dividendes politiques en contrepartie de leurs sacrifices. Un conseil civil composé de notables, de chefs tribaux et de représentants de l'opposition formé sous l'égide de la coalition internationale est censé gérer Raqqa, Mais cette structure risque fort d'être handicapée dès le départ par les contradictions entre les Arabes et les Kurdes.
Alors, direction Pékin, donc, François Bougon, avec l'ouverture mercredi du 19e congrès du Parti communiste chinois et un discours au fleuve que les 2300 délégués du parti ont écouté religieusement et que vous avez lu dans son intégralité, une quarantaine de pages, semble-t-il. Correspondance de Pékin signée Heike Schmidt.
C'est un Xi Jinping sûr de lui et souriant qui a fait son entrée sous les acclamations dans le palais du peuple, décoré de drapeaux rouges et de ce slogan « Vive le Parti communiste, grand, glorieux et honnête ». Dans un discours de plus de 3 heures, l'homme fort du pays a fait le bilan de 5 ans de travail, 5 ans de progrès, selon lui, pour réaliser le rêve chinois d'un renouveau de la grande nation. La Chine dont rêve Xi Jinping est une Chine puissante qui lutte inlassablement pour se hisser au premier rang du monde, qui fait flotter haut le drapeau socialiste et ne sera la marionnette de personne. Harmonie, stabilité et surtout loyauté avec les valeurs socialistes, ces mots ont été le fil rouge dans un discours volontairement idéologique, nationaliste et parfois menaçant. La lutte anticorruption ne connaît pas de tolérance ni de zone interdite, a martelé le secrétaire général, en se félicitant que les barreaux de la cage pour empêcher toute possibilité de corruption ont été resserrés pour dissuader les camarades communistes qui sont trop tentés par le goût du luxe.
Alors François Bougon, on écoutera à 2 reprises le président chinois dans cette émission, mais quel est votre regard, vous, sur ce discours? Donc Heike Schmidt en parlait à l'instant, discours autoritaire, parfois menaçant, c'est aussi votre avis? Quelle a été la singularité de ce discours de Xi Jinping cette année?
Moi, ce qui m'a frappé dans ce discours, c'est à la fois la manière dont il s'est un peu glorifié sur les 5 années passées, et puis aussi la route qu'il trace, en fait. Alors, c'est dans la continuité de ce qu'il a fait, c'est-à-dire un renforcement du parti, et puis aussi cette volonté de dire que désormais, la Chine est une puissance forte. Il y a eu beaucoup d'occurrences de Tianghua, en chinois, c'est puissance forte, grande puissance. Et donc là, il trace aussi une route qui va de 2020 à 2030 et après de 2030 à 2050. Et donc cet objectif, ce qu'on appelle en Chine les 2 objectifs du centenaire, en fait, qui correspondent à la fois au centenaire de la fondation du Parti communiste en 2021 et puis la fondation de la République populaire de Chine en 2049, avec l'objectif final qui est d'avoir une grande puissance respectée dans le monde et qui a sa voix, dont la voix porte.
Mais il y a toujours cette singularité qui, vue de loin, vue de Paris, pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste de ce pays, qui est de voir cohabiter un système communiste avec ce que ça sous-entend, ce que ça implique, et sur le plan économique, un capitalisme, j'allais dire, pur sucre.
C'est ce qu'on appelle, en tout cas, c'est ce que Deng Xiaoping avait appelé le socialisme à caractéristiques chinoises. Ce qui montre aussi que on a affaire à un régime communiste qui s'adapte en permanence, en fait. Et là, lui, ce qui est sorti de ce discours aussi, c'est qu'il a dit, voilà, maintenant, nous sommes dans une ère nouvelle pour le socialisme à caractéristiques chinoises. Et donc, on passe à autre chose. On n'est plus simplement dans le développement économique. On est aussi maintenant dans l'affirmation qu'on est une grande puissance mondiale. Et ça, c'est ce qui me frappe le plus chez lui. Après, il y a toute la question de savoir si lui aussi veut aller au-delà de 2022, c'est-à-dire son deuxième mandat. Ça, on le saura peut-être d'ici une semaine. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est ça. C'est cette insistance sur ce concept de grande puissance. Et donc, cette grande puissance chinoise, elle est à la fois très forte économiquement, ça de fait, mais aussi très refermé, en tout cas très solide politiquement sur le concept communiste.
Mais il parle par exemple de grande renaissance nationale. Pourquoi une renaissance?
Alors, ce concept de renaissance vient d'un discours qui n'a pas été inventé par les communistes, mais qui a été lancé dans les années 20 par les nationalistes, les grands concurrents des communistes, sur l'humiliation coloniale qu'avait subi la Chine. C'est à partir de la guerre de l'opium de 1849, en gros, jusqu'en 1949, on considère que la Chine a été humiliée, dépecée, etc. Il y avait les concessions. Et donc, ce discours-là est très présent chez Xi Jinping. Et donc, il y a le concept de sans le Parti communiste, on n'aurait pas pu venir à bout de cette humiliation coloniale. Donc il y a aussi une vision messianique du Parti communiste.
Alors dans votre livre, dans la tête de Xi Jinping, qui analyse donc les repères, la formation, les intérêts sur le plan intellectuel du président chinois, Mao est très présent. C'est-à-dire que Mao est très présent aussi dans l'esprit du président chinois.
Alors, Mao est très présent, mais il insiste beaucoup sur le Mao de la première période, le Mao sans tache, moi je dirais, celui qui n'avait pas encore commis le grand bond en avant, la révolution culturelle. Et c'est le Mao des origines, d'une certaine manière. C'est le Mao du parti communiste respecté par les habitants parce qu'il n'est pas corrompu et que le contre-modèle, c'est les nationalistes totalement corrompus. Et c'est ce Mao-là qu'il met en avant, le cadre vertueux, honnête. Ce que disait votre correspondance, il y a beaucoup de références à l'honnêteté, à la vertu, parce que la corruption est l'un des principaux fléaux qui menace le parti.
On en parlera tout à l'heure. D'ailleurs, la pensée Xi Jinping est entrée, en fait, dans la doctrine, si j'ai bien compris, du Parti communiste.
Elle est en train d'entrer. Alors, toute la question est de savoir si elle va être inscrite dans la charte, et ça, on le saura que dans une semaine.
Est-ce qu'il y aura un petit livre, je sais pas, rouge, façon Xi Jinping?
Oui, il y a déjà un livre, qui a rassemblé tous ses discours, qui a été publié en 2013-2014, qui s'appelle La gouvernance. Donc, parce que ça, c'était le concept clé de Xi Jinping, c'est la gouvernance, gouverner le pays, et en gros, ça veut dire reconcentrer le pouvoir autour de lui.
Et pas de petit livre avec des slogans, des maximes.
Alors, il y a un culte de la personnalité, mais il se fait, oui. C'est un peu de l'ère moderne, donc ça utilise les réseaux sociaux, on le voit en dessin animé, on le voit avec sa femme qui est une chanteuse d'opéra, Prang Liyuan. Et donc, c'est un culte de la personnalité 2.0, 3.0.
Façon 2017.
Exactement.
Sept jours dans le monde.
Alors nous allons repartir en Chine dans un instant, François Bougon, mais d'abord direction l'Espagne, où la crise entre Madrid et Barcelone, entre l'État central et la Catalogne, ne s'est pas apaisée cette semaine. Aujourd'hui, on le sait, le Conseil des ministres se réunit et l'article 155 va être appliqué par le gouvernement. Article qui prévoit le contrôle de la région par Madrid, qui annonce d'ailleurs des élections. Dans cette situation confuse, les Barcelonais paraissent divisés. Écoutez par exemple le reportage de Benjamin Delisle, jeudi, dans la capitale catalane.
Sur la place San Jaume, où l'hôtel de ville fait face au palais de la Generalitat, les Barcelonais filent entre les gouttes de pluie et les caméras du monde entier. Jordi, 41 ans, est un indépendantiste de la première heure. Il fustige le recours de Madrid à l'article 155.
C'est un retour dans le passé, un retour 40 ans en arrière. Comme si rien n'avait évolué pendant tout ce temps. Madrid ne veut pas nous laisser voter, donc nous allons continuer tous ensemble de lutter pour avoir la liberté de voter.
Beaucoup de Barcelonais iront comme lui manifester pour l'indépendance dans les jours qui viennent. Mais d'autres, comme Anna et sa nièce, resteront chez eux, lassés de cette crise.
Moi, je veux continuer à appartenir à l'Espagne et à la Catalogne. Qu'on continue comme avant.
En étant contre l'indépendance et contre la perte d'autonomie, sa nièce se sent totalement inaudible.
Nous vivons un abandon autant de la part du gouvernement central de Madrid que du gouvernement catalan. Ils se battent pour diriger, ils ne pensent plus aux gens.
Un bras de fer qui n'est pas prêt de se terminer. Dans sa lettre au gouvernement ce matin, Carles Puigdemont assurait qu'en cas de recours à l'article 155, il déclarerait l'indépendance.
La situation est à suivre aujourd'hui dans nos journaux après le Conseil des ministres à Madrid. Donc, partons maintenant pour le Venezuela. Après l'élection des 23 gouverneurs régionaux du pays dimanche dernier, le président Nicolas Maduro l'a emporté avec une victoire de ses candidats dans 18 de ses États. Caracas, mercredi, Julien González.
Victoire populaire, c'est ce que scandent les membres de la Constituante en applaudissant les 18 gouverneurs chavistes qui viennent de prêter serment. Parmi ces nouveaux élus, Hector Rodriguez, gouverneur vainqueur dans l'état de Miranda, le fief d'Enrique Capriles, ex-candidat de l'opposition lors des deux dernières présidentielles.
Le peuple s'est exprimé avec clarté. Il ne veut plus de confrontation ni de violence. Le peuple veut la paix. Tous ceux qui ont cherché la confrontation ont été sévèrement battus dimanche. Donc je lance aux dirigeants de l'opposition un appel à la réflexion, qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs qu'ils ont faites par le passé. C'est un moment de paix, c'est un moment où tous, nous devons travailler pour la tranquillité et la prospérité du pays.
Le message reprend en substance celui lancé par le président Maduro la semaine dernière, qui exige de chaque nouvel élu qu'il se soumette à la constituante sous peine d'être destitué. En toute logique, la présidente de l'Assemblée constituante a donc convoqué les 5 gouverneurs de l'opposition pour qu'ils prêtent serment, mais l'opposition refuse. Elle considère que ces élus ne se soumettront qu'à la constitution et au peuple, et en aucun cas à la constituante qu'elle juge illégale.
A souligné aussi cette semaine une série d'attentats meurtriers en Afghanistan. Au moins 3 attaques, notamment contre une base de l'armée afghane, ont fait plus d'une cinquantaine de victimes, attaques revendiquées par les talibans. Retour en Chine maintenant, François Bougon. Écoutons un extrait, premier extrait du discours au fleuve, donc, de Xi Jinping lors de l'ouverture du 19e congrès du Parti communiste chinois.
À l'heure actuelle, la situation connaît tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des changements profonds et complexes. Le développement de notre pays se trouve dans une importante période stratégique dont les perspectives sont rayonnantes, tout en étant confronté à des défis très sérieux. Tous les camarades du parti doivent prendre de la hauteur pour voir loin, être conscient des dangers possibles, avoir un esprit à la réforme et à l'innovation en rejetant toute pensée sclérosée. Il faut conduire notre peuple multiethnique à la victoire décisive de la société de moyenne aisance et faire triompher le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère.
Alors, on va repartir à Pékin dans un instant, François. Vous vouliez dire un mot sur l'Espagne, sur ce qui se passe en Espagne aujourd'hui?
Oui, non, mais ce qui me frappe, parce que dans le livre, j'analyse beaucoup ce qu'est le récit national fabriqué par Pékin. Et ce qui me frappe en Espagne, c'est que, enfin, j'en parlais avec un journaliste espagnol qui s'appelle Sergio del Molino, qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'Espagne vide. Et lui, ce qui le frappait, c'était de voir à quel point le discours victimaire des Catalans ne reflète pas la réalité, en fait. Ce ne sont pas des victimes. Il y a des provinces qui sont beaucoup plus lésées par rapport aux Catalans. Et ce qu'il m'expliquait, c'est qu'il y a eu une difficulté de la construction d'un récit national espagnol, parce que c'était lié au franquisme, c'était tabou presque, et se sont constitués des récits catalans, basques, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile d'avoir un récit qui unifie toute l'Espagne.
Alors, à propos de la Chine, revenons en Chine, François. On a entendu donc le président, Xi Jinping, qui parle de changements profonds, de changements stratégiques, qui parle qui dit qu'il ne faut pas avoir de pensée du passé, en quelque sorte, sclérosée. Ouais. Vous dites qu'il a été très marqué, on revient à Mao, et par l'obsession de contrôler le passé. Justement, ça revient à ce sujet du récit national.
Oui, c'est le champ idéologique est un champ de bataille pour Xi Jinping. C'est ce qui le caractérise, à la fois le champ idéologique et le champ culturel. Et l'histoire est aussi un domaine où il veut tout contrôler. Et donc, ça passe par la lutte contre ce qu'ils appellent, enfin, ce que le régime appelle le nihilisme historique. Alors, qu'est-ce que c'est que le nihilisme historique?
Il y a tout un vocabulaire qu'il faut maîtriser. Hein.
Le nihilisme historique, c'est remettre en cause l'histoire officielle, d'une certaine manière, l'histoire des héros. Si vous mettez en doute certains mythes liés à la guerre révolutionnaire, vous pouvez être poursuivi.
Alors, qui risque d'être poursuivi, dites-vous? Et donc, on l'a entendu de cette voix posée que les délégués ont écouté avec une extrême attention. C'est tout un décorum. Il faut rappeler qu'il y a 86 millions de membres du Parti communiste.
Il y en a 89 aujourd'hui.
89 aujourd'hui.
Oui, c'est une immense machinerie.
Quand on voit les photos, par exemple dans votre journal Le Monde cette semaine, c'est discipline.
Hein. Il y a un côté comme ça qui fait penser à l'Union soviétique. On a la faucille et le marteau. On va avoir l'international à la fin. Tout le décorum communiste est encore très 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 présent, et aussi toute la propagande, la machine de propagande est extrêmement importante. Et alors donc c'est aussi une propagande qui s'adapte, qui évolue et qui aujourd'hui utilise les moyens les plus modernes comme la télévision, les séries télévisées, internet et même Facebook et Twitter, alors que Facebook et Twitter sont bloqués en Chine.
On en reviendra du cyberespace que voudrait Xi Jinping pur et débarrassé de toute critique. François Bougon, nous allons nous arrêter un instant, écouter quelques nouvelles du monde, il sera peut-être question de la Chine, et on se retrouve dans quelques 3 minutes. A tout de suite. Merci pour toutes ces informations. On se retrouve, nous, pour parler de l'actualité de ces jours derniers avec les reportages de la rédaction et notre invité François Bougon, auteur de « Dans la tête de Xi Jinping », un livre édité chez Solaire, Actes Sud.
Une semaine d'actualité.
En France, avec une intervention télévisée du président Emmanuel Macron, dimanche soir, la première depuis son élection, il répondait aux questions de trois journalistes du groupe de télévision privée TF1, Pauline Glaise.
Emmanuel Macron, averti par l'expérience de son prédécesseur François Hollande, refuse d'être jugé sur le seul taux de chômage. Il promet néanmoins que les premiers effets des réformes se feront ressentir dans un an et demi, deux ans. Des réformes qu'il veut ambitieuses. Emmanuel Macron l'a dit et répété. Son objectif, c'est de transformer la société. Pour cela, pas de grandes annonces. Hier soir, il a assuré le service après-vente de ces réformes du marché du travail. Après le premier acte de la pièce, celui des ordonnances sur le code du travail qui donne de la souplesse aux entreprises, le temps est venu de l'acte 2. Emmanuel Macron en est convaincu. La lutte contre le chômage, cela passe par la formation professionnelle et l'éducation via l'apprentissage. Il veut lever les verrous, verrous mental avec la promotion d'une filière souvent mal aimée et verrous financiers avec des aides pour les salaires des apprentis. Le président a aussi voulu apaiser les inquiétudes sur l'élargissement de l'assurance chômage aux démissionnaires. Pour lui, pas de surcoût lié à cette mesure. Elle sera encadrée et il ne croit pas aux démissions sur un coup de tête. Et puis pour l'acte 3, il appelle à un débat l'an prochain sur l'intéressement des salariés. Ces réformes, Emmanuel Macron les a défendues avec précaution en espérant bien se débarrasser du costume de président des riches.
Partons pour l'Asie maintenant, en nous approchant donc de la Chine de François Bougon, pour la Corée du Sud où François Hollande, qui pourtant avait dit qu'il ne se prêterait pas à ce genre d'exercice, a donné une conférence rémunérée à Séoul cette semaine, correspondance de Frédéric Ojardias.
Je vous demande d'accueillir chaleureusement, monsieur le président François Hollande.
Un gymnase bardé d'écrans géants, un parterre de décideurs qui applaudissent poliment et un François Hollande qui revêt ses nouveaux habits de conférencier international aux côtés d'éminents invités tels qu'Hillary Clinton ou Ban Ki-moon. L'ex-chef de l'État refuse de commenter la politique française. Il évite les petites blagues face à un président américain qui vient de décertifier l'accord nucléaire iranien et qui multiplie les menaces verbales visant la Corée du Nord. Il en appelle à la diplomatie européenne. Commentaire en sortie.
Je ne suis plus en situation de responsabilité. Je dis simplement, par expérience, que la France et l'Europe doivent être présentes et doivent être actives dans la recherche d'une solution. Et c'est pourquoi j'ai dénoncé les provocations, bien sûr, de la Corée du Nord, mais aussi les escalades verbales qui peuvent, là aussi, conduire à accepter le risque même de la guerre.
François Hollande repart, signe un autographe à un fan coréen isolé qui l'attendait dehors. La suite du programme reste martiale, déjeuner avec le chef de l'armée américaine en Corée du Sud et visite de la frontière ultra-militarisée qui divise la péninsule.
Notons aussi que François Hollande a quand même aussi critiqué la politique française, la politique fiscale d'Emmanuel Macron en faveur des plus riches et les tensions d'ailleurs entre Emmanuel Macron et François Hollande sont de plus en plus grandes, semble-t-il. Alors retrouvons maintenant la Chine, Pékin et l'homme fort du pays, Xi Jinping. Écoutons François Bougon, un nouvel extrait de son discours lors de l'ouverture du 19e congrès du Parti communiste qui est au cœur de notre rendez-vous cette semaine. Il parle cette fois de la corruption.
Les masses populaires détestent au plus haut point la corruption et celle-ci constitue la plus grande menace pour notre parti. Nous devons alors persévérer dans la lutte anticorruption en veillant à remédier tant aux symptômes qu'à la cause du mal. C'est seulement ainsi que nous arriverons à assurer la stabilité durable du parti et de l'État. Étant donné la gravité et la complexité de la lutte anticorruption à l'heure actuelle, nous devons montrer une détermination inébranlable à maintenir l'effet dissuasif et répressif de cette lutte pour aboutir finalement à une victoire décisive. Il faut faire en sorte que la lutte anticorruption ne connaisse pas de tolérance, ni d'exception, ni de zone interdite. Il faut enrayer la propagation de ce fléau, exercer une forte pression sur les personnes corrompues et former ainsi une force de dissuasion durable. Les corrompus, où qu'ils se cachent, seront poursuivis, arrêtés et traduits en justice.
Suite d'une semaine d'actualité, alors François Bougon dans la tête de Xi Jinping, pour reprendre le titre de votre livre, il y a aussi cette vieille affaire de la lutte contre la corruption, une vieille affaire en Chine.
Ça a toujours été un élément du discours des dirigeants chinois et des secrétaires généraux du parti. Mais
Alors, c'était un élément aussi pour se débarrasser des rivaux politiques. Oui. C'était facile, on les accusait de corruption et voilà, on les mettait en prison. Là, avec Xi Jinping, on est allé un peu plus loin, je pense, de par l'ampleur de cette campagne et puis aussi de par la volonté de Xi Jinping d'instituer la lutte anticorruption comme un élément de gouvernance, de faire pression sur la bureaucratie, sur les cadres, pour qu'ils se rangent à ce que lui veut, en fait. Donc, il l'utilise vraiment comme un outil de gouvernement.
Alors il y a des expressions comme masse populaire que je n'avais pas entendues depuis des lustres.
Ah ben avec Xi Jinping, c'est ça qui est intéressant parce que vous me parliez de Mao, mais il réanime, il ressuscite des concepts qui avaient été un peu, qui étaient encore valides mais qui étaient presque jamais utilisés, comme par exemple la ligne de masse. Donc la ligne de masse, c'est un concept maoïste et donc il en parle énormément. La ligne de masse, c'est vous êtes un cadre du Parti communiste, vous devez suivre la ligne de masse. Alors ça veut dire se frotter aux masses populaires, côtoyer les masses populaires dans une espèce d'échange et après vous guider les masses populaires.
Alors, je reprends votre expression au début de votre livre. D'ailleurs, on attendait Gorbatchev, on a eu Poutine en 2012, quand Xi Jinping est arrivé au pouvoir, et quand il a été élu en 2013 président, enfin élu, choisi en tout cas. Les droits de l'homme sont plus que jamais menacés avec lui.
Ah, ils sont menacés. Il a établi un règne de fer sur la Chine et tous les espaces de liberté qui avaient progressivement été conquis par les combats, par exemple, des avocats ou par les journalistes ou des militants des droits de l'homme. Tous ces espaces-là se sont considérablement réduits. L'un des exemples les plus connus, la fermeté qu'il a fait preuve par exemple par rapport à Liu Xiaobo en ne lui permettant pas d'aller finir ses jours à l'étranger, oui, montre à quel point aujourd'hui la Chine n'a plus grand chose à monnayer avec les dissidents par rapport aux pays occidentaux. Il y a quelques années, on aurait pu voir la Chine céder et laisser partir Liu Xiaobo. Aujourd'hui, il n'écoute même plus que ce que demandent les occidentaux.
Et aucune pitié pour sa femme d'ailleurs, hein, pour la femme.
Oui, oui, elle est toujours. Elle n'a rien fait et elle est sous résidence surveillée. On ne peut pas la voir. Ses amis ne peuvent pas la voir. Personne ne sait exactement où elle est.
Alors, c'est un homme, Xi Jinping, qui écrit beaucoup, semble-t-il. Ça, vous analysez ses écrits, cette graphomanie, j'allais dire, de ce dirigeant chinois qui est aussi notable.
Oui, oui, il écrit beaucoup. Alors, aujourd'hui, peut-être que c'est pas lui qui écrit, mais quand il était cadre local, et notamment dans le Zhejiang, il avait l'habitude d'avoir une chronique régulière dans les journaux. Donc, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup écrit, beaucoup produit de production écrite, oui.
Mais quelqu'un qui est influencé aussi, et ben, la collection du livre qui le veut, vous avez creusé ce sillon par la philosophie aussi,
alors,
par une forme de philosophie.
Est-ce qu'il est influencé? Ça, je ne pourrais pas le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il utilise, alors dans son concept notamment pour mettre en avant un modèle chinois, une belle civilisation chinoise, il utilise énormément tout ce qui est classique, tout ce qui est littérature classique, tout ce qui est philosophie classique. Il utilise énormément le confucianisme, le Tao. De temps en temps, le taoïsme, le légisme. Et donc, il y a cette espèce de besoin d'aller vers les classiques, en fait.
Ah, il faut s'arrêter un instant sur le légisme.
Alors, le légisme, c'était un peu la grande école concurrente du confucianisme. C'est Han Feize. Et le légisme, c'est considérer que l'homme n'est pas bon par essence et que seule la loi et une loi qui punit peut permettre de régner. Donc, l'une des figures associées au légisme, c'est Qin Shi Huangdi, qui était l'empereur unificateur et qui... dans l'histoire, alors selon les mythes, il a fait brûler les livres et mis au pas les intellectuels.
Donc quelqu'un qui avait une conception assez particulière de la nature humaine.
Assez autoritaire.
Comparable à Hobbes.
Exactement.
Ici.
Assez autoritaire. Et on dit que Mao avait l'habitude de dire « Moi, je suis le marxisme et Qin Shi Huangdi ». Sous-entendant c'est une alliance entre marxisme et légisme.
Est-ce qu'on peut dire que le président chinois d'aujourd'hui est un intellectuel? Ou plus intellectuel que ses prédécesseurs? Est-ce qu'en lisant votre livre, on s'aperçoit quand même qu'il y a une vraie réflexion?
Moi, je dirais pas qu'il est intellectuel. Moi, ce que je dirais, c'est que c'est un président qui a une idée de la civilisation chinoise, en fait, qui est conscient qu'il doit élaborer une nouvelle idéologie. Il est très idéologue. Voilà. Je dirais plutôt ça. Je dirais que c'est un idéologue. Donc, il met les idées en valeur, quitte à utiliser le confucianisme, par exemple. Alors que il est héritier d'un parti communiste qui, dans les années 1920,
oui,
remettait en cause cette société confucéenne. Donc, voilà. Moi, je dirais plutôt ça. C'est un idéologue.
Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a été formé dans le cadre du Parti communiste dès l'enfance, en fait, d'évidence.
Alors,
il n'est jamais sorti, en fait, de ce cadre-là.
Oui, alors, il appartenait à la caste rouge, mais après, son père a été limogé, et donc, il a plutôt connu la déchéance. Donc, et puis, oui. Au moment de la révolution culturelle, les universités et les écoles étaient fermées, donc ça, c'est sûr que son éducation est un peu déficiente. Après, il a pu revenir à l'université après la révolution culturelle, à partir de 75, et il est quand même, c'est un apparatchik, d'une certaine manière. Il a été aussi vice-président de l'école du parti. Donc, enfin, président de l'école du parti, juste avant d'accéder au pouvoir. Donc, c'est quelqu'un qui met beaucoup d'importance à l'éducation, mais c'est l'éducation des apparatchiks communistes.
Toujours dans le cadre.
Toujours dans le cadre.
Écrire par courriel semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Continuez bien sûr à nous écrire. Vous pouvez aussi nous joindre à la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Je salue quelques auditeurs africains aujourd'hui, comme chaque samedi. Un salut par exemple à Valérie en République démocratique du Congo. Si la communauté internationale n'agit pas en augmentant les sanctions, y compris sur Kabila, il n'y aura jamais d'élection en RDC, écrit-il. Pas d'alternance dans les pays africains, pas de développement égal, plus d'émigration, plus de terrorisme, dommage, écrit-il. Bonjour à Bertin et à Ali Saleh N'Djamena. Un salut à Yves qui est artiste et président de l'orchestre K Musica de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Bonjour à Medouna Niamey au Niger, à Oumar Bobo à Yaoundé et à un fidèle parmi les fidèles, Mokhtar à Richard Toll au Sénégal.
Une semaine d'actualité.
Et partons pour l'Afrique avant de revenir en Chine avec vous, François Bougon, dans un instant. En Somalie d'abord, après l'attentat particulièrement meurtrier de samedi dernier à Mogadiscio, à la capitale, il a fait plus de 300 morts. Le pays était en deuil ces derniers jours. Clémentine Palotsky, jeudi.
Ils étaient des milliers hier après-midi dans les gradins du stade Kony de Mogadiscio, unis contre le terrorisme, à manifester leur indignation et leur tristesse. Mohamed Boulboul est journaliste, il couvrait l'événement.
Le principal message que les habitants de Mogadiscio souhaitaient exprimer, c'est à quel point ils sont désolés de ce qui s'est passé samedi lors de l'explosion du camion piégé.
La classe politique était-elle aussi au rendez-vous? Le président somalien Mohamed Farmajo a promis d'intensifier la lutte contre Al-Shabaab, groupe terroriste lié à Al-Qaïda qui mène régulièrement des attaques dans le pays. Les drapeaux de la Somalie et de la Turquie ont été déployés côte à côte sur la pelouse du stade.
Le peuple somalien a été frappé par la tragédie et la Turquie est le premier pays à être venu en aide au peuple somalien.
Plus tôt dans la journée, la population a défilé dans les rues de Mogadiscio. Des marches similaires ont été organisées dans les grandes villes du sud et du centre de la Somalie. Des rassemblements qui viennent clôturer 3 jours de deuil national.
François Bougon, puisque nous avons commencé notre voyage africain et que nous parlons de la Chine, il faut évidemment parler de l'influence de la Chine aujourd'hui en Afrique, qui va se développer et qui se développe avec le président Xi Jinping.
Oui, c'est une influence considérable. On a vu que la Chine a ouvert sa première base à Djibouti. Je pense que pour les Chinois, c'est vraiment stratégique. Alors après, la diplomatie chinoise est guidée avant tout par les intérêts économiques, mais la Chine, malgré tout, est de plus en plus obligée de prendre en compte, par exemple, la présence de ses ressortissants en Afrique, d'où la présence de cette base. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la bouche de Xi Jinping, si on a écouté son discours, on passe de plus en plus sur la notion de solution chinoise pour le monde, et notamment vis-à-vis des pays africains ou d'autres pays en voie de développement. Xi Jinping présente le modèle chinois comme une alternative au modèle occidental. Donc ça c'est ce qu'on voit aussi sous Xi Jinping s'affirmer de plus en plus. Le côté profil bas de la Chine est abandonné.
Alors continuons notre voyage africain avant de reparler de Pékin et du régime chinois. La tension est à nouveau montée en effet au Togo cette semaine avec de nouvelles manifestations mercredi notamment à Lomé ce jeudi. Peter Sassou,
Dogbé.
La tension était vive hier, les manifestants très décidés.
Nous disons que 50 ans au pouvoir, d'une seule famille, d'un seul régime, ça suffit. Nous ne pouvons plus rester sous le joug du régime RPT uni. Ça suffit comme ça.
Malgré les gros bras cagoulés, les uns munis de longs bâtons, les autres à bord de pick-up sans plaque d'immatriculation, ils étaient, disaient-ils, contre la marche, intimidés et ne voulaient voir aucun attroupement. Toute la journée, les heurts se sont poursuivis dans plusieurs quartiers de la ville. Les manifestants de l'opposition posaient les barricades, brûlaient les pneus et lançaient des pierres. En réponse, les forces de l'ordre ripostaient, lançaient des grenades lacrymogènes, dispersaient et chargeaient à la matraque. Et Brigitte Kafuya Diamagbo Johnson, membre de la coalition des 14 partis de l'opposition, se demande si le gouvernement mesure la portée de ses actes.
Nous constatons que le gouvernement, alors qu'il prétextait la nécessité de laisser les populations vaquer à leurs occupations pour interdire de manière illégale les manifestations en semaine, nous constatons également qu'ils ont tout fait pour que Lomé ait l'air d'une ville morte.
Le mot d'ordre est maintenu pour ce jeudi et si le gouvernement ne réagit pas, les manifestations se feront désormais tous les jours, a conclu Brigitte Kafuya Diamagbo Johnson.
Et les manifestations de jeudi ont été interdites par les autorités, à suivre évidemment dans nos journaux. Partons maintenant pour la Centrafrique avant de reprendre la direction de la Chine. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, veut attirer l'attention du monde sur la situation du pays. New York, jeudi, Marie Bourreau.
Il y a urgence pour le secrétaire général qui craint une dislocation du pays et il lance un appel à un sursaut national.
On assiste encore à des opérations où vraiment des nettoyages ethniques ont pris place dans plusieurs endroits du pays. Ça nous préoccupe énormément et je fais appel aux leaders religieux, aux leaders communautaires pour faire comprendre aux gens que le Centrafrique où chrétiens et musulmans ont toujours vécu ensemble doit rétablir les conditions de respect mutuel, de compréhension, de dialogue pour que ces communautés puissent une fois de plus trouver un futur commun.
Près d'un an et demi après l'élection du président Touadéra, la situation n'a jamais été aussi fragile, mais Antonio Guterres lui renouvelle son soutien.
On ne peut pas dire que nous sommes face à une désillusion, mais il faut reconnaître qu'il y a un travail énormément important à faire et notamment qu'il faut améliorer la situation sécuritaire et c'est la raison pour laquelle j'ai présenté au Conseil de sécurité une demande pour une augmentation significative des forces.
Le secrétaire général a effectivement demandé l'envoi de 900 hommes supplémentaires pour améliorer la flexibilité des casques bleus sur place. Le renouvellement de la mission de l'ONU doit avoir lieu en novembre prochain.
Et de grandes organisations humanitaires privées se sont alarmées jeudi à Paris du chaos, disent-elles, qui règne en Centrafrique où de nouvelles violences ont d'ailleurs éclaté dans le sud-est du pays.
Une semaine d'actualité.
Alors repartons en Chine maintenant, François Bougon, grâce à notre correspondante Heike Schmidt. Écoutons en effet quelques Chinois qui ont écouté avec attention, c'est le moins qu'on puisse dire, le président Xi Jinping lors du 19e congrès du Parti communiste.
Pai Ching-ku, 85 ans et vétéran qui a connu la guerre de Corée, n'a pas loupé une miette du discours de Xi Jinping.
Je l'ai noté dans mon cahier. Premièrement, Xi bâtit une armée forte. C'est bien, la Chine est de plus en plus puissante et riche, alors il faut une armée forte et moderne pour nous protéger. Et puis Xi lutte contre la corruption et le gaspillage. Jiang Zemin et Hu Jintao, eux, ne l'ont pas osé, alors qu'ils savaient que beaucoup de cadres sont corrompus.
Punir les camarades trop occupés à s'enrichir et les forcer à obéir aux ordres venant de Pékin, Madame Zhu approuve cette volonté du numéro un chinois de mettre le parti au pas. Mais
la politique du comité central est bien, mais je crains que les cadres locaux n'en fassent qu'à leur tête. Moi, je soutiens à 100% Xi Jinping.
Dans des sondages de l'Institut américain Pew, 80% des Chinois se déclarent satisfaits de la direction prise par leur pays. C'est aussi le cas de Madame Yang, qui croit à la promesse de Xi d'un renouveau de la grande nation chinoise.
Lorsque notre pays sera plus prospère, plus fort, les Chinois seront fiers.
Je ne suis pas membre du parti, mais je sais que c'est le parti communiste qui a permis notre développement économique. Il doit donc garder la direction du pays.
Garder la direction du pays et remporter la victoire décisive du socialisme aux caractéristiques chinoises, comme l'a dit Xi Jinping.
François Bougon, vous avez écouté ces Chinois avec la plus extrême attention. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Français qui écoutent Emmanuel Macron avec un carnet de notes, en prenant des notes, mais vous avez entendu ce Chinois, le premier interlocuteur, qui était très attentif, c'est le moins qu'on puisse dire.
Alors, ce qui est intéressant dans ce qu'on a pu entendre, c'est qu'on voit bien quels sont les sujets, en tout cas les deux éléments qui permettent à Xi Jinping d'être populaire parmi une certaine population. C'est à la fois cette lutte anticorruption, ça c'est très populaire, et puis d'autre part le nationalisme, et ces deux éléments là lui permettent, je pense, d'avoir une certaine popularité.
Et vous avez entendu cette femme qui disait, oui, moi j'ai confiance en, elle disait en substance ceci, j'ai confiance en Xi Jinping, mais alors les autres?
Alors ça, c'est un discours qu'on entend souvent en Chine et quand on va dans les campagnes les plus reculées aussi. C'est cette idée que le centre, ce qu'on appelle le centre, donc le centre du pouvoir, les hauts dirigeants ne sont pas conscients de ce qui se passe au plus bas niveau. Et donc, c'est vrai que le peuple a plutôt tendance à toujours accuser les cadres locaux. Mais ça, c'est en fait, ça se comprend parce que c'est avec eux qu'ils sont au contact [S2] Oui. [S1] Direct, etc. Alors, c'est vrai que c'est un discours qu'on a beaucoup entendu, qu'on entend encore et qui est très très fort en Chine.
Alors je voudrais qu'on parle maintenant d'un document qui est au cœur aussi de votre livre, un livre passionnant que je recommande. Dans un chapitre intitulé « Guerre culturelle », vous faites référence à un document secret qui ne l'est plus d'ailleurs et qui a été publié, il y a eu une fuite quelque part, document numéro 9, publié un an après la désignation de Xi Jinping à la présidence de la République, qui identifie des priorités stratégiques et des menaces, en fait, supposées contre la Chine. Il y en a 7, hein. Par exemple, la démocratie constitutionnelle occidentale, ou les valeurs universelles.
Oui, alors c'est ce qu'on appelle, le surnom, c'est le document 9, parce que c'est le 9e document qui avait été émis par le comité central dans l'année 2013. Il est resté très très longtemps secret, il a été diffusé par un site basé aux États-Unis qui s'appelle Minqing, et le régime a soupçonné une journaliste qui s'appelle Gao Yu, qui l'a payé cher d'ailleurs, puisqu'elle a été condamnée à 7 ans de prison, je crois, en 2015. Et l'intitulé exact de ce document, c'est « Communiquer sur l'état actuel de la sphère idéologique ». Et on a appris l'existence de ce document au moment où Xi Jinping effectuait, je crois, une tournée dans le sud de la Chine, où on pensait voir là une nouvelle manière de rendre hommage à Deng Xiaoping, aux réformateurs, etc. Et avec ce document-là, on a vraiment compris quel était son programme. Et son programme, c'est de dire il ne faut pas faire ce qu'ont fait les dirigeants du Parti communiste de l'Union soviétique. Il ne faut pas se laisser corrompre d'un point de vue idéologique. Et quel est l'ennemi? En gros, l'ennemi, c'est l'Occident. Voilà.
Et c'est par exemple aussi, je cite, le journalisme à l'occidental.
Exactement.
Non, c'est écrit dans le texte.
C'est le journalisme à l'occidental. Donc, vous avez cité la démocratie constitutionnelle occidentale, mais il y a aussi ce dont on parlait tout à l'heure, le nihilisme historique. Tout ce qui peut remettre en cause la légitimité du parti est attaqué.
Et le néolibéralisme aussi, c'est étonnant dans un pays où le capitalisme est...
Ça fait partie des contradictions. Ça fait partie des contradictions, mais après, c'est vrai que je pense que si vous interrogez des responsables chinois, ils vont considérer que leur régime n'est pas néolibéral, que c'est un capitalisme d'État, que c'est un capitalisme régulé, et c'est pas du tout du néolibéralisme.
Alors oui, il y a un cyberespace, à condition qu'il soit, et là je cite, « sain et propre ».
Oui, alors Xi Jinping utilise une analogie, il compare l'internet à un écosystème, à un environnement, et il dit que comme quand il y a de l'air pollué, il faut lutter contre la pollution atmosphérique ou la pollution du sol.
Alors
s'il y a des herbes vénéneuses, alors les herbes vénéneuses, c'est les critiques contre le parti. Et ce qu'on a vu avec Xi Jinping, c'est clairement une décision de contrôler l'internet comme le parti contrôle les médias officiels.
Alors, vous terminez votre livre avec une question sur la pérennité de ce régime, tout simplement. On a l'impression que la Chine, aujourd'hui, monstre, deuxième puissance occidentale, pays le plus peuplé de la planète, va rester tel quel ad vitam aeternam. Vous vous dites non, au contraire, vous vous replacez le débat et certains prédisent même la fin de la République populaire chinoise.
Alors,
dans les années qui viennent.
Oui, c'est pas moi. Alors moi, je cite un sinologue américain, David Chambaud, qui jusqu'à présent plaidait pour... lui disait le parti communiste chinois a la capacité de survivre, de se perpétuer au pouvoir. Et il y a un an ou deux, je me souviens plus exactement de la date, il a écrit un long texte pour dire à quel point désormais il pensait que le parti pouvait justement chuter, pouvait imploser. Et il a cité un événement bien particulier. Il était invité à une conférence sur les nouvelles routes de la soie. Et il a regardé les cadres qui étaient là et il a dit: je les ai sentis tellement peu investis, tellement peu intéressés par ce qui se disait, que là je me suis dit non, peut-être que c'est la fin du parti bientôt.
En tout cas, il y a une question qui est dans votre livre, vous y répondez, en tout cas vous donnez des clés pour y répondre. La Chine conduite par Xi Jinping est-elle stable? Ça c'est une autre question, la Chine des campagnes ou la Chine des villes par exemple.
Ce qui est compliqué avec Xi Jinping, c'est qu'aussi par exemple, regardez, juste la lutte anticorruption au sein du parti provoque des tensions. Donc... Les réformes qu'il amène et qu'il engendre peuvent être porteurs d'instabilité.
Merci François Bougon, votre livre qu'il faut lire absolument pour comprendre ce qu'il y a dans la tête de Xi Jinping s'intitule justement Dans la tête de Xi Jinping. Il est édité chez Solaire Actes Sud. Une semaine d'actualité réalisée par Vanessa Rovansky, bien sûr. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées. Nous parlerons justice avec un des grands avocats français, Maître Henri Leclerc, qui publie ses mémoires, un grand avocat pénaliste. Demain dimanche, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.